autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous intéresser au plaisir aujourd'hui, au plaisir sexuel et amoureux chez les autres animaux, du crocodile à l'escargot, en passant évidemment par le cochon ou le bonobo, mais aussi les poulpes, les chauves-souris, les rats ou les oiseaux. 95% des espèces animales ne pensent qu'à ça, et pas seulement pour se reproduire, comme on a si longtemps fait semblant de le croire. Pourquoi et comment le plaisir, la jouissance, voire l'orgasme sont aussi bien et autant partagés? Et si le plaisir sexuel était un des moteurs, si ce n'est le principal moteur de l'évolution? Quoi de mieux que le sexe bien partagé pour provoquer les rencontres et assurer la biodiversité? C'est la thèse défendue avec succès par notre invité Thierry Laudet, professeur d'écologie évolutive et directeur de recherche à l'université de Rennes, éminent spécialiste des sexualités animales, auteur de nombreux ouvrages et articles de référence sur le sujet. Son dernier opus, Une histoire naturelle du plaisir amoureux, vient de paraître aux éditions Odile Jacob, un ouvrage qui fait forcément envie et dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, autour de la question « Pourquoi faire l'histoire naturelle du plaisir sexuel ?» Bienvenue au cœur des ébats les plus sensuels, mais aussi les plus inattendus.
Prenons le cas d'Elix aspersa. Elix aspersa qui est un hermaphrodite vrai, c'est-à-dire qu'il est mâle et femelle toute l'année. Alors en mai-juin, mais aussi en août-septembre, la période de l'accouplement est une lente mise en œuvre d'amour pour l'escargot. Et elle est lente parce que l'escargot est lent par nature. Les escargots se recherchent, s'observent, se rapprochent, se choisissent, se mordillent, etc. etc. À un moment donné, le petit dard calcaire qui se trouve dans la voie femelle, sort de l'orifice pour aller piquer le pied du partenaire. On observe alors une dévagination du pénis et du vagin. Les escargots s'accouplent tête bêche, le pénis de l'un pénétrant le vagin de l'autre et inversement. Chacun expulse son spermatophore, qui est le long filament cartilagineux imprégné de spermatozoïdes. Alors évidemment, ces spermatozoïdes vont devoir suivre un parcours compliqué pour aller féconder les ovules. Comme je le disais, l'accouplement est long parce que l'escargot est lent par nature. Ça peut durer jusqu'à 10 heures.
Et voilà, 10 heures d'accouplement, tout genre confondu, pour l'hermaphrodite escargot. Ça peut faire rêver et ce n'est qu'un début. Bonjour Thierry Laudet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager le chant d'extase du crocodile, l'orgasme du cochon ou le cunnilingus façon chauve-souris. Car le professeur d'écologie évolutive que vous êtes, directeur de recherche à l'université Rennes 1, a une spécialité, presque une obsession, les sexualités animales, dont vous êtes le grand spécialiste, auteur de nombreux articles scientifiques dans les plus prestigieuses revues et de plusieurs ouvrages. Alors, le dernier en date vient de paraître et s'intitule donc « Histoire naturelle du plaisir amoureux ». Le plaisir, le grand mot est lâché autour de la sexualité animale ou plutôt des sexualités animales. Eux aussi éprouvent du plaisir en faisant la chose, Thierry Laudet, et pas seulement pour procréer.
Pas seulement pour procréer, mais déjà il fallait vérifier qu'en effet les espèces animales puissent ressentir quelque chose. Et ça c'est un travail de longue haleine, puisque vous savez qu'il y a encore des chercheurs qui nous assurent que la plupart des espèces animales ne ressentent rien et qu'on peut les traiter comme des machines à produire des protéines et les découper dans tous les sens. Et donc effectivement il y a un travail sur ce thème de la sensibilité. Moi j'ai pris le problème à l'envers, la question n'est pas de savoir si les animaux ressentent de la souffrance, mais bien plutôt comment se fait-il que le plaisir soit un élément si partagé sur la planète. Alors, en regardant de très près les espèces animales, il a fallu qu'on codifie les éléments qui permettaient de vérifier.
Oui, mais oui, parce que comment on fait techniquement pour mesurer le plaisir chez un animal?
Donc, il faut faire de la physiologie, utiliser quelques électrodes de ci, de là, vous voyez, pour mesurer ces choses-là, mais aussi mesurer les sécrétions, mesurer les contractions musculaires, enfin, tout un ensemble d'éléments qui nous permettent d'affirmer qu'en effet, il y a de très nombreuses espèces. Du furet au bonobo, bien sûr, ou du rat, même à l'escargot, qui peuvent ressentir des éléments qui vont conférer du plaisir. On savait par exemple déjà que les espèces animales vont aller fuir. Un ver, par exemple, va fuir un milieu qui ne lui plaît pas, qui est trop acide ou trop chaud, pour aller vers un milieu qui lui plaît. Bon, jusqu'à présent, on étudiait surtout ça dans ce sens-là. Là, maintenant, on se rend compte, par exemple, que les éléments de relation entre les individus les obligent à considérer si la chose est bien ou pas bien, et donc à faire ressentir du plaisir ou pas.
Alors évidemment, il y a de la gradation, bien on sûr. Va y venir. On parlait du ver de terre, bon, le plaisir du ver de terre, il existe.
Compliqué.
Enfin,
il est compliqué
à mesurer, hein, le plaisir du ver de terre. En revanche, votre premier chapitre, Thierry Laudet, s'ouvre, si j'ose dire, sur le chant du crocodile. Alors on n'attendait pas vraiment le crocodile quand on parle de plaisir sexuel et amoureux.
Et pourtant, le crocodile fait exactement comme la fauvette. Il chante pour séduire, il chante pour rencontrer. Alors, c'est un chant un peu guttural, hein. C'est pas la chose la plus mélodieuse à une oreille humaine. Mais il fait des bulles, en fait. Il fait tout un ensemble d'éléments pour pouvoir petit à petit et très langoureusement réussir à séduire la femelle. Car en effet, la question du plaisir sexuel, ça va aussi très très vite rentrer dans le cadre de qu'est-ce qui va devenir, comment faire des relations entre mâle et femelle sans trop se disputer. Et puis justement, pour réussir à prolonger ces instants de bonheur.
C'est ça, parce qu'en fait, il y a donc, alors on sait la parade des oiseaux, on sait qu'il y a une parade, on sait qu'il y a de la séduction, on sait tout ça, mais cette notion du plaisir, pourquoi est-ce qu'on l'a si longtemps nier aux animaux? Parce que, alors vous avez parlé de la sensibilité animale qu'on commence à explorer et à reconnaître aujourd'hui, mais malgré tout, on se disait, les animaux, le sexe, c'est pour procréer. Or, on se dit aussi que les animaux, ils savent pas toujours que c'est pour procréer le sexe. Donc.
Tout commence d'abord, en effet, par la rencontre avec l'autre, avant de savoir si on va se reproduire ou pas. Mais dites-vous bien qu'il y a encore des pays où on s'interroge sur le rôle des femmes et sur leur droit à avoir du plaisir. Alors vous comprenez que les animaux, on est encore très très loin de le concevoir.
Ouais, ouais. Et dans cette question du plaisir, on va y revenir notamment autour de l'orgasme. Il y a des rois et des reines de l'orgasme. Ce serait qui chez les animaux? Il y a les rats, c'est pas mal, je crois.
Les rats, c'est pas mal. Les bonobos, c'est très bien aussi.
Ah, bah oui, les bonobos, évidemment.
Les léopards, les tigres, beaucoup de félidés ont des relations très longues, amoureuses. Beaucoup de serpents aussi. Hein. Une étreinte de serpent, ça peut durer plus d'une heure. Et j'en ai vu il n'y a pas très très longtemps chez moi, là, entre deux couleuvres d'Esculape, et je peux vous dire que ça y allait.
Hein, donc il y avait du plaisir.
Ah oui, oui, il y avait des orgasmes très visiblement. Après, il faut bien comprendre aussi que notre interprétation de ces choses-là, elle est basée sur tout un ensemble de critères qui accompagnent l'orgasme humain, donc on peut en déduire que c'est très proche de l'orgasme humain, mais même l'orgasme humain, on a mis du temps à le comprendre. Et puis il y a encore une autre chose à comprendre aussi, c'est que l'orgasme n'est pas lié ni au pénis, ni au clitoris.
Ah
il
bon
faut arrêter ces visions complètement pénicentrées.
Donc l'orgasme n'est pas lié à nos organes sexuels.
Tout à fait.
Sexuels,
ces organes intromissants sont apparus très récemment.
Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'évolution.
Merci. Ils sont apparus très récemment dans l'évolution. Il a fallu beaucoup de temps pour que ces organes soient fixés. Ils existent maintenant chez les reptiles, mais ils n'existent pas quasiment chez beaucoup, beaucoup de poissons. Ils n'existent pas chez tous les reptiles. Évidemment, chez les oiseaux, on sait qu'il n'y a pas tous ces organes-là. Mmh. Et pourtant, tous ces animaux sont parfaitement capables de ressentir du plaisir, de ressentir de l'orgasme. En fait, qu'est-ce qui va déclencher le plaisir? Eh bien, c'est la petite mouche drosophile qui nous donne la réponse.
La mouche drosophile et le plaisir sexuel. Là, j'ai du mal à vous suivre, mais je
C'est un chercheur américain qui a confirmé que l'éjaculation expérimentale de la drosophile était gratifiante parce qu'elle activait des neurones spéciaux dans le cerveau qu'il a pu prouver. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est que l'orgasme d'une mouche, bien sûr. Je me contente davantage des animaux dits supérieurs, mais il n'empêche qu'à partir du moment où on le retrouve des éléments de ce plaisir chez des espèces aussi archaïques, on peut effectivement s'attendre à ce que le plaisir se soit modifié au cours de l'évolution dans un autre but que celui de la reproduction.
C'est ça, dans un autre but que celui de la reproduction, on va y venir hein, pour une question de diversité, pour élargir effectivement notre descendance. Mais donc, l'orgasme n'est pas lié à nos organes génitaux, donc on peut avoir des orgasmes sans organes génitaux. L'éjaculation n'est pas automatiquement liée à la reproduction,
voilà, tout à fait.
Et à la possession chez les animaux, notamment chez la mouche. Ça peut être une sorte de préliminaire, si je vous ai bien compris.
Tout à fait, tout à fait. Ça...
On se rend compte que tous les goûts sont dans la nature, enfin ça on le sait. savait un peu, et même les pratiques, comment dire, les plus sophistiquées, qui apparemment, et là je vous suis encore, Thierry Laudet, n'ont pas grand-chose à voir avec la reproduction, quoique je vous propose, Thierry Laudet, d'écouter une autre biologiste qui, elle aussi, se passionne pour la diversité des organes et des pratiques sexuelles des animaux, Emmanuelle Puydébat, directrice de recherche au Muséum National d'Histoire Naturelle, que nous avions reçue pour son ouvrage « Sexus Animalus » et qui nous avait fait partager dans le détail les pratiques érotiques et buccales des chauves-souris, adeptes, excusez du peu, de la fellation comme du cunnilingus.
On observe, c'est que ce soit le cunnilingus ou la fellation chez les chauves-souris, elles ont, en général, ça a lieu avant et après la pénétration, voire pendant la pénétration parfois. Et il semblerait, il y a des travaux qui ont montré ça, que ça permette d'augmenter la fécondation. Parce qu'en fait, plus l'accouplement est long, on peut supposer que que le cunnilingus et la fellation ont un effet positif sur ces animaux, il n'y a pas de raison. Et donc ça rallongerait la durée d'accouplement et donc du coup ça optimiserait la fécondation.
De l'intérêt du plaisir finalement, de l'intérêt du plaisir et des préliminaires, parce qu'il y a aussi des préliminaires.
Tant qu'on les aspects liés à l'hygiène, puisqu'on sait aussi que ces comportements-là chez la chauve-souris permettent de lutter aussi contre les IST, donc tout ce qui est, disons que ce serait un antimycosique et un antibactérien, quoi.
Oui, d'autant qu'on le sait, les chauves-souris... Et c'est ça, joint de l'utile et agréable, d'autant que les chauves-souris, on le sait, elles trimballent pas mal de virus qui ne leur font rien, mais elles ont intérêt à se lécher.
Tout à fait.
C'est ça, hein.
Oui, complètement.
Et donc, il y a donc du plaisir, il y a du désir aussi dans ce que vous avez étudié. Alors, on pense évidemment au bonobo qui règle tout par le sexe.
Clairement, chez les primates, il y a beaucoup d'exemples, même avec des étudiants. On a déjà vu pas mal de fois des utilisations de sex toys, hein, par exemple. Hein. On a déjà vu des femelles orang-outans utiliser des feuilles ou des petites branches pour se caresser. Enfin, on voit bien qu'il n'y a aucun lien avec l'accouplement. C'est vraiment du plaisir personnel et individuel. Et puis l'orgasme, il est largement prouvé dans le monde animal. Alors, il n'a pas pu être étudié, évidemment, chez toutes les espèces animales, hein, on s'en doute bien. Mais par contre, chez les rats, qui sont étudiés en long, en large et en travers, d'ailleurs, les pauvres, on a très bien montré que dans le cadre de l'accouplement, il y avait une augmentation des fréquences cardiaques, une augmentation des contractions utérines. Il y a énormément de quantifications d'ultrasons.
Ils sont très sonores, hein, les rats, quand ils ont un orgasme.
Ah oui, c'est très sonore. Et puis, il y a aussi des molécules, si vous voulez, qui sont liés au plaisir, comme les endorphines ou les opioïdes, qui sont quantifiées au moment de l'orgasme, en lien avec les contractions du périnée chez les femelles. Donc, c'est vraiment comme chez nous, hein, y a vraiment un plaisir au moment de l'accouplement et y a des vrais orgasmes chez les rats, par exemple. Donc, s'il y en a chez les rats, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y en a pas chez les autres mammifères.
Vous êtes d'accord, j'imagine, Thierry Laudet, avec Emmanuelle Puydébat.
Voilà, qui est très très bien dit, en effet. Elle explique ça avec beaucoup de conviction, parce que commence, je crois, à y croire. La vraie question maintenant qui se pose derrière, c'est pourquoi est-ce qu'il y a du plaisir ? On a toujours tendance à penser ça, que ça va quand même aider la reproduction, soit en nettoyant le sexe, soit en faisant ceci ou cela. Mais il faut bien reconnaître que nous, par exemple, quand on fait de la cuisine, si on met du thym dans nos aliments, c'est pas à cause du pouvoir que le thym a pour nettoyer nos aliments ou du moins pour enlever les bactéries.
C'est pour
on
le
met
plaisir
ça parce que ça,
que
a,
ça
du coup,
donne.
Voilà.
Ça.
Et donc je crois que la première question est celle d'abord du plaisir, qu'ensuite, en effet, d'autres paramètres vont intervenir qui vont faciliter le fait de le faire ou pas. Mais de même que les espèces animales n'ont pas des relations amoureuses seulement pour la reproduction, de la même manière, évidemment, on peut se poser la question de ce sur quoi ça peut aller. Alors là, on aborde un phénomène qui est étrange dans l'évolution. C'est qu'au fur et à mesure de l'évolution, les espèces animales ont réduit leur capacité à se reproduire. On est passé des millions d'œufs de la morue à quelques œufs chez l'escargot.
D'accord.
Et là, maintenant, chez l'éléphant, par exemple, il y a un petit tous les 3-4 ans. Quand vous voyez, on a vraiment une toute petite reproduction maintenant, alors que probablement, on ressent de plus en plus de plaisir à le faire. On voit donc que le mécanisme du plaisir est lié quelque part à la reproduction, du moins à son affaiblissement, mais en même temps, il ne fait pas que le compenser. Il le compense pour une raison que vous avez tout à l'heure un peu évoquée, à savoir la fabrication de la diversité des conduites sexuelles. Diversité des conduites sexuelles qui, évidemment, ont un rapport direct avec la biodiversité.
C'est-à-dire, ce que vous dites, Thierry Laudet, c'est qu'on se rend compte que le plaisir est une des forces de l'évolution, parce que, au fond, on fait peut-être de moins en moins d'enfants. Ce n'est pas toujours pour faire des enfants que les animaux s'accouplent, se mettent en couple, ont des relations sexuelles diverses et variées. Par contre, le plaisir qu'on éprouve tous, autant qu'on est, à s'accoupler, décuple la possibilité de la diversité de notre descendance, c'est ça.
Voilà, y compris la diversité des partenaires. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette manifestation du plaisir, cette chose qui se manifeste, elle entre dans un rapport entre des individus qui sont généralement occupés par des intérêts différents. C'est ce que j'avais appelé en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez,
la guerre des sexes
chez les animaux. Et en fait, cet élément de contraste entre les intérêts des femelles et les intérêts des mâles vont aboutir évidemment à une relation complexe. Complexe qui va être en quelque sorte résolu par cette affaire de plaisir qui va apporter un apaisement. On le voit d'ailleurs, cet apaisement peut aussi être social. Chez des espèces animales, on va non seulement pratiquer
comme
le sexe,
comme
chez les bonobos par exemple, il y en a d'autres, mais on va non seulement appliquer le sexe pour se reproduire, mais aussi pour d'autres facteurs comme les facteurs sociaux. En fait, la sexualité et le plaisir vont envahir des tas d'autres compartiments parce qu'à chaque fois, il faut résoudre un problème, celui de se confronter à l'autre dans une relation qu'on appelle une interaction écologique. Et c'est la somme, la cascade de toutes ces interactions écologiques qui font notre monde. On est loin de se satisfaire du simple argument on se reproduit, plus on se reproduit, plus on va diffuser des gènes. La preuve, puisque chez les espèces animales, on se reproduit de moins en moins, d'une part. Et d'autre part, parce que cette capacité à diffuser de la diversité va à nouveau fabriquer encore plus de diversité. Et tout ça, ça tient ensemble dans des réseaux qu'on appelle l'écologie, dans des réseaux écologiques, où chaque fois, il y a un tir à la corde entre les mâles, les femelles, entre les prédateurs, les proies, etc.
Et justement, alors vous parlez des mâles et des femelles. Dans cette question du plaisir, on avait souvent l'impression, où on allait un peu rapidement en disant les pauvres femelles, et puis ce n'est pas le cas, il n'y a pas que les pauvres femelles, c'est-à-dire que les rates éprouvent aussi du plaisir et un orgasme. Il y a quoi ? C'est pas un équilibre, mais ça dépend des espèces. Parce qu'on remarque que le plaisir est évidemment partagé. Pas toujours, il y a aussi du viol, il y a aussi d'autres, mais le plaisir peut être partagé.
Le plaisir est partagé, il peut être partagé, mais il faut bien comprendre qu'on est sur une planète qui résulte de milliards d'interactions qui ont existé depuis le début. C'est ce qu'on appelle une écologie évolutive. Et ces milliards d'interactions sont en équilibre, plus ou moins précaires. Quand elles sont légèrement déséquilibrées, elles finissent par disparaître. Quand elles restent en équilibre, un peu dynamiques, elles peuvent évoluer vers ceci ou vers cela. La relation sexuelle est une de ces interactions essentielles du vivant. Et c'est à partir de ces petites variations dans l'intensité de l'activité sexuelle ou d'autres activités qu'on va voir varier les relations entre les espèces, mais aussi leur forme. On parle par exemple de la forme des pénis tout à l'heure. On voit bien qu'entre un pénis de chat, un pénis de cochon ou un pénis de chauve-souris, les variations sont énormes parce que là, on est dans un conflit sexuel entre des mâles et des femelles qui vont petit à petit s'adapter l'un à l'autre. Alors l'un allonge son pénis, l'autre allonge son vagin, l'autre empêche le pénis de rentrer, du coup le pénis va raccourcir. Toute cette évolution-là participe évidemment de la grande diversité sexuelle. Et même chez les vers de terre, on sait qu'au moment de l'accouplement, les individus vont chercher un partenaire particulier. C'est plus la recherche...
Même chez les vers de terre, un partenaire particulier.
Tout à fait.
Un partenaire qui correspond... Qui correspond à
sa différence à lui, puisque c'est le grand thème de la biologie de la sexualité. La sexualité, ça construit de la différence. Alors que la reproduction, ça reproduit de l'identique. C'est surtout ces deux éléments-là qui comptent. Et chez le vers de terre, on va voir effectivement l'individu, après toute petite capacité sensorielle, être pourtant capable de choisir son partenaire. On le sait, puisqu'il est capable de donner, puisque ce sont des accouplements homosexuels chez les espèces les plus archaïques comme ça, eh bien, il est capable de donner son sperme à tous les individus qu'il rencontre, mais par contre, il ne va accepter le sperme que de certains individus qu'il préfère, puisque c'est avec ce sperme-là qu'il fécondera ses propres ovules.
Et voilà comment vous répondez à une question d'ailleurs d'un de nos auditeurs au Bénin, Mouizou, qui voulait savoir si l'homosexualité existait aussi chez les animaux. Oui, l'homosexualité existe aussi chez les animaux. Elle procure du plaisir et pas de la procréation, mais du plaisir.
Tout à fait. Il ne faudrait même pas dire l'homosexualité soi, parce que ce sont les homosexualités. Il y a tout un ensemble de caresses homosexuelles. Les sexualités animales sont plurielles, elles sont évidemment déclenchées par les mécanismes de plaisir, le circuit de la récompense physiologiquement, etc., comme vous en avez parlé tout à l'heure. Et toutes ces sexualités particulières font partie de l'ensemble qui est une interaction particulière entre des mâles et des femelles, ou même entre deux mâles ou entre deux femelles, au sein d'une même espèce. Ce sont des interactions fondamentales, et pour expliquer ça de manière cohérente, il faut bien en arriver à l'écologie, qui est une autre étude. des interactions et évidemment passer à autre chose que simplement l'idée qu'on va diffuser des gènes à non plus finir.
C'est ça, il faut tirer ce fil du plaisir. Voilà. Autour de la question pourquoi et comment faire l'histoire naturelle du plaisir sexuel. Et si on commençait comme nous le faisons ensemble, Thierry Laudet, par en parler, Let's Talk About Sex, titre évidemment un peu chaud, de Salt and Pepper qu'on vous glisse entre les deux oreilles.
Yo, I don't think we should talk about this.
Come on, why not?
People might misunderstand what we're trying to say, you know?
No, but that's a part of life.
At home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic,
cause that ain't gonna stop it.
Now just talk about sex on the radio and video shows.
Many will know
anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice: pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
All right then, come on, spin.
Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk.
To trap, make any man's eyes pop. She use what she got to get whatever she don't got. Fellas drool like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and the note that last night was dope.
Salt and Pepper sur RFI, Let's Talk About Sex, en compagnie du professeur d'écologie évolutive Thierry Laudet, éminent spécialiste des sexualités animales, auteur entre autres d'une histoire naturelle du plaisir amoureux aux éditions Odile Jacob, un ouvrage que vous pouvez gagner, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question du plaisir sexuel, naturel et partagé. Je vous propose tout de suite un nouvel éclairage, c'est celui d'Étienne Danchin, autre chercheur iconoclaste, spécialiste de l'évolution des comportements et de la diversité biologique, qui était récemment notre invité et que vous citez dans votre ouvrage, Thierry Laudet.
Ça me rappelle parce que pendant 2 ans, j'ai enseigné en lycée. Et j'avais enseigné en 3e l'éducation sexuelle. Et j'ai parlé du plaisir et d'autres choses comme ça. Et je pense que, oui, on ne peut pas parler de sexe sans parler de plaisir, et que de réduire en tant que biologiste simplement le sexe à l'acte de fécondation, etc., c'est louper toute une partie de l'histoire. Surtout quand on parle de l'humain, parce que le but de ces cours, c'était bien sûr d'éduquer les jeunes gens à ce à quoi ils s'engagent, ce que veut dire un acte sexuel, etc. Et donc, la notion de plaisir est un élément crucial. Moi, en tant que mâle, je sais très bien que sans plaisir, il y a des choses qui peuvent pas se passer, par exemple.
Mais et est-ce donc, que chez les animaux, c'est pareil? Ou est-ce que chez les oiseaux, par exemple?
Mais pourquoi voulez-vous que ce soit différent? C'est clair que nous sommes un être biologique. Bien sûr que nous avons des originalités. Mais on est clairement, on fait partie du monde animal. Et donc, tous ces concepts qu'on a développés pour décrire la subtilité de tous nos comportements en général, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne sont pas valides ailleurs. Altruisme, tricherie, bluff, tout ça, tous ces mots-là, intérêt, etc., tous ces mots-là ont leur sens aussi pour, chez l'animal. Et donc, il n'y a pas de raison, sauf à admettre qu'il y a eu une discontinuité, qu'à un moment donné, il y a eu une discontinuité. Mais ça, c'est l'inverse même de la théorie de l'évolution. Donc, moi, je n'appartiens pas à cette vision-là.
Est-ce que vous auriez un exemple, peut-être, je ne sais pas, dans les animaux que vous avez étudiés, bon, je ne parle pas des mouches, ça aurait été un peu compliqué, le plaisir chez la mouche drosophile, quoique, je ne sais pas, mais peut-être que chez les mouettes, chez les... Enfin,
Ah bah écoutez, une mouette qui copule, on l'entend. Il y a du plaisir, on le voit bien. Parce que des fois, c'est dans des situations, sur une corniche, dans une falaise, vous imaginez. Quelquefois, la corniche est tellement ridicule qu'ils arrivent à peine à construire leur nid. Copuler, c'est vraiment... il faut vraiment le vouloir, quoi, dans certaines situations. J'ai vu des viols chez la mouette. Des mâles qui forcent une femelle alors qu'elle est en train d'incuber, et la femelle lui tape dessus, essaye de le faire partir, etc. Donc, toutes ces choses-là existent, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'elles n'existent pas chez l'animal. C'est le truc qu'a inventé l'évolution. Nous, on lui a mis le mot plaisir pour faire qu'on se reproduise. Parce que c'est coûteux de se reproduire, on le sait tous.
Vous êtes d'accord avec Étienne Danchin, c'est le gimmick, le gadget, enfin le sacré gadget qu'a inventé l'évolution pour qu'on se reproduise, le plaisir.
Tout à fait, c'est une sensibilité particulière pour aiguillonner les sexualités, toutes les sexualités et toute la diversité du monde.
C'est ça, c'est pour aiguillonner, vous l'avez dit, toute la diversité du monde. Et pourquoi est-ce que pendant très longtemps on a refusé ça aux autres animaux, j'ai envie de dire. Vous êtes aussi Thierry Laudet, l'auteur d'un ouvrage sur les animaux qui trichent et qui se trompent. Et d'ailleurs, Étienne Danchin, avant de parler du plaisir sexuel, parlait aussi, et ben voilà, les animaux sont comme nous, ils trichent, ils se trompent aussi d'ailleurs, ils se cachent des choses.
Alors oui, toutes les stratégies sont dans la nature, mais la vraie question c'est de savoir pour quelles raisons finalement on a autant de biodiversité sur la planète. Et c'est quand on regarde toutes ces stratégies qu'on comprend qu'on peut concevoir l'évolution du monde un petit peu autrement. Pardon.
Oui, l'histoire de l'évolution du monde.
En insistant sur toutes ces petites variations qui finissent par permettre de comprendre pourquoi on convole.
C'est ça. Pourquoi on convole? C'est pour le plaisir. Enfin, on est poussé. Je dis on, et on est bien d'accord que c'est... Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui nous pousse. Mmh. Mais on est tous, en tant qu'être vivant, poussés à vivre, à avoir une descendance. Et on est poussé aussi à avoir du plaisir. En fait, c'est le plaisir qui est notre moteur, à tous.
Voilà. Depuis les débuts de la planète, il y a des réseaux écologiques qui sont mis en place, des cascades de réseaux écologiques. Dans ces réseaux de relations entre les êtres vivants, il y a une relation particulière qui concerne une seule espèce, enfin, l'espèce à nature d'elle-même, la relation sexuelle, mais qui concerne l'espèce mâle-femelle, mais aussi entre mâles, entre etc. Cet élément-là existe parce que justement il y a du plaisir qui s'en dégage. Toutes les relations permettent de renforcer ces éléments, ces relations-là. Toutes ces relations sont plutôt renforcées parce qu'il y a du plaisir qui s'en dégage. Et c'est ça qui va constituer petit à petit l'évolution du monde et évidemment les différents changements. Le déplaisir va contredire la relation écologique, le plaisir va au contraire la construire. Et c'est toutes ces cascades qui sont importantes. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas seulement protéger des animaux dans une réserve, dans un coin. Nous faisons partie d'un même monde dans lequel toute cette histoire évolutive, bourrée de cascades, de milliards d'interactions différentes, est en train de construire l'évolution du vivant. Ce n'est pas seulement des gènes qui se diffusent, ça c'est l'image telle qu'elle est véhiculée par Dawkins et d'autres chercheurs. C'est bien, bien différent de ça. C'est l'expression des gènes. Par exemple, vous avez pu voir dans le livre, j'insiste par exemple sur le fait que chez le rat mâle, quand il diffuse ses gènes, il ne va pas diffuser les mêmes capacités d'expression du gène. Il veut des enfants robustes par exemple, alors que la femelle, elle ne veut pas que les jeunes dans sa portée vivipare viennent l'épuiser pour former sa petite. Donc on voit que l'expression des gènes va être différente entre un mâle et une femelle. Donc vous voyez que la question, ce n'est pas seulement la diffusion des gènes, mais bien la diffusion de leur expression. Et là-dedans, on va retrouver tous les éléments de la sensibilité, dont le plaisir, qui vont permettre d'aiguillonner sans arrêt cette diversité particulière.
C'est ça. Finalement, le plaisir, ça permet aussi d'avoir une autre grille de lecture de l'évolution. Voilà. C'est vraiment un aiguillon formidable pour
vous
tout.
Avez raison.
Et donc évidemment, non mais c'est grâce à vous, hein, parce que je vous ai bien lu. Et donc vraiment, évidemment, que l'activité sexuelle est amoureuse. Parce que vous ne séparez pas les deux. Hein. Vous dites le titre de votre ouvrage, hein, d'ailleurs, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, c'est l'histoire naturelle du plaisir amoureux. Plaisir amoureux, plaisir sexuel, c'est pareil. On a dénié le plaisir amoureux aux autres animaux. On l'accordait aux oiseaux parce qu'on pensait qu'ils étaient fidèles, ce qui n'est pas vrai du tout. Et c'est tout.
Les deux éléments sont quasiment inséparables. Alors, on peut les séparer, on peut très bien avoir du plaisir purement sexuel, on peut très bien avoir du plaisir purement amoureux, mais évidemment, les deux sont quand même dans un gradient d'existence. En règle générale, on est un petit peu amoureux quand on a du plaisir. Et on le voit à travers comment est-ce qu'on se séduit les uns les autres. Et c'est là où intervient justement ce jeu de la recherche des différences à travers ce qu'on connaît maintenant comme étant les MHC, dont je parlais déjà en 2007. Le complexe majeur d'histocompatibilité, notre élément qui va nous séduire chez l'autre. C'est aussi pour ça qu'on a énormément de séductions possibles, énormément de partenaires potentiels, puisqu'à chaque fois, on va trouver quelqu'un qui est différent. Mais ce que cherche un lézard, ce que cherche une mouette ou ce que cherche un homme, c'est à chaque fois justement la différence de l'autre. La différence de l'autre. Le sexe, c'est ça. Ça produit de la différence, mais en même temps, ce qui attire chez l'autre, c'est qu'il est différent. Et différent surtout pour eux. Des éléments comme son MHC, ce système d'histocompatibilité, qu'on arrive à décrypter à la fois par les odeurs, par le nez, c'est très important le nez en sexualité, mais aussi bien sûr qu'on arrive à décrypter à travers des connaissances plus subtiles, des ultrasons, vous voyez, tout un ensemble d'autres éléments qui vont intervenir Et le baiser sur la bouche, hein, qui chez l'humain est le prototype de cette recherche du MHC différent.
Alors, arrêtons-nous sur le baiser sur la bouche. On va y revenir dans un exemple animalier dans quelques instants. Mais donc, le baiser sur la bouche, fondamental parce qu'on repère notre bon partenaire, celui qui nous donne du plaisir, nous excite et va assurer une grande diversité qui est très différente de nous. Quoi.
Voilà, c'est-à-dire que...
Et on le repère par le nez, donc vous avez
on
dit
le repère en gros parce qu'on appelle d'habitude l'organe voméronasal qui est situé au-dessus du palais. Et donc, le fait de, faire de se faire des baisers, ça n'a vraiment aucun sens de s'échanger la salive. Sauf si on se rappelle que la salive est porteuse d'odeur, déjà, de tout ce système d'histocompatibilité et qu'on le peut le décrypter de manière inconsciente. Hein, ça se décrypte de manière inconsciente à travers, justement, tout le système qui va remonter après, voméronasal, etc., jusqu'à chointer d'ailleurs les circuits du cerveau. Mais rappelez-vous bien, la première chose que vous avez dit de votre amoureux, c'est « je l'aime parce qu'il est différent ». Eh bien, cette vérité-là, c'est la vérité de la biologie. Chaque être va aimer l'autre à cause de cette différence. Il y en a plein qui sont différents, après on peut très bien en changer. Et puis au bout d'un moment, le problème de la différence, c'est qu'elle finit par lasser un peu. C'est toujours
c'est
le même.
Quoi. Donc on va rechanger pour en avoir un encore indifférent.
Ce processus-là fabrique la diversité des relations.
Autour de la question, pourquoi et comment faire une histoire naturelle du plaisir, sexuel et amoureux ? Allez, on ne va pas bouder notre plaisir. En écoutant justement, pour prolonger cette question du baiser, un nouvel éclairage, c'est celui d'un vétérinaire, épidémiologiste et naturaliste. Il s'appelle François Moutou, il a profité du dernier confinement dans sa ville de Boulogne-Billancourt pour observer les oiseaux qui l'entouraient. On l'écoute.
Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quand, j'ai assisté à un accouplement de merles. D'ailleurs, j'ai assisté à plusieurs accouplements là, à Boulogne-Billancourt ce printemps. Et donc, les merles, après l'accouplement, j'ai noté ça, j'étais très surpris par, je crois que c'est le mâle qui a fait une espèce de cabriole, enfin, quelque chose qui n'avait pas d'explication évidente. Comme s'il était plutôt content. Mais c'est moi qui ai interprété. Et sur le petit plan d'eau du parc de Billancourt, j'ai vu un accouplement de poules d'eau, galénules poules d'eau. Et je dirais qu'après l'accouplement, les oiseaux alors, se sont embrassés. On ne peut pas dire qu'ils se sont embrassés, mais les deux se sont retrouvés. Il y a eu un petit geste très tendre de l'un vers l'autre au niveau du bec, que moi j'ai interprété comme un baiser. Alors évidemment, c'est totalement anthropomorphisé. Mais c'était quelque chose que je veux dire, c'est qu'il y a eu des gestes au-delà de l'acte technique nécessaire pour que la ponte fasse des œufs fécondés. Donc on a l'impression que de temps en temps, au-delà, enfin peut-être même plus qu'on imagine, il y a des gestes de tendresse. Ce qui choque, ce qui surprend l'humain, c'est d'ailleurs ce qui est, parce qu'on est naïf et qu'on n'est pas malin, mais de voir des animaux qui ont des gestes gratuits l'un envers l'autre, alors que ça ne semble pas indispensable. Mais c'est ce qui fait sans doute l'intérêt de la vie, comme pour nous d'ailleurs. C'est faire un truc dont on n'a pas forcément besoin, mais qui fait vraiment plaisir.
Le plaisir, on y revient avec François Moutou, Thierry Laudet. Au fond, on se dit qu'il faudrait revoir notre histoire naturelle, nos histoires amoureuses et sexuelles. Chez les animaux aussi, il y a de la tendresse, il y a de la gratuité, il y a tout ça.
Bien sûr, on retrouve tous ces éléments particuliers de la relation, puisque l'enjeu, c'est quand même de construire des relations, de rester dans l'écologie du monde et de développer le plus de diversité possible. C'est ça qui fonctionne pour fabriquer encore plus de diversité. Et ce fonctionnement biologique est évidemment complètement dépendant de tout un ensemble d'éléments, que ce soit la sensibilité individuelle, les sons, les odeurs, le rôle du vent, des végétaux, enfin tout un ensemble d'éléments.
C'est
vont
ça,
intervenir.
En fait, il y a une espèce particulière qui est câblée ou équipée d'une manière particulière, mais après, il y a chaque individu, il y a le moment, et ça joue pour tous les animaux. Est-ce qu'on peut s'arrêter, par exemple, sur le cochon ? Alors, on dit souvent que nous sommes parfois des cochons ou des cochonnes, mais le cochon, lui aussi, alors lui, côté orgasme, c'est pas mal non plus.
Ah oui, il a beaucoup d'orgasmes, il est capable d'en avoir beaucoup. Il a un pénis aussi très spécialisé pour organiser le maximum de, on va dire, de sensibilité, quoi, le maximum d'excitation et de sensibilité. Mais bien que ça ne marche pas forcément pour ça, à chaque fois, ces éléments-là vont évidemment intervenir pour multiplier ces possibilités. Il faut se rappeler que le rôle du plaisir, c'est vraiment de multiplier les activités sexuelles, y compris en changeant de partenaire.
De nous donner envie,
donner envie de continuer de vivre sur cette merveilleuse planète qui nous a inventé quand même cette chose prodigieuse-là. Et c'est ça qui fait continuer le vivant.
qu'est-ce qui vous a le plus, je sais pas, étonné, surpris, fasciné? Ça fait des années que vous travaillez sur ces questions des sexualités animales, de la biodiversité, justement, amoureuse. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus frappé? Parce que nous, on est frappé à chaque page, parce qu'en plus, les exemples sont très étonnants. Et puis, parce que ce qu'il y a derrière est quand même très, très fort, hein, le plaisir comme moteur de l'évolution.
C'est d'essayer de trouver quel est le sens de ces manifestations. On appelle ça souvent des manifestations phénotypiques. On ne sait pas trop quel sens leur attribuer. En règle générale, on va un peu dans les cartes rondes de tout ce qui peut être la biologie orthodoxe. On essaye de respecter tout cela. Et puis, petit à petit, on découvre que ça ne marche pas, qu'il faut aller au-delà, que ça nous révèle d'autres choses, que ça nous révèle de la sensibilité, de la gratuité. Vous voyez, tout un ensemble d'autres éléments, y compris de la vie sociale. Parce que la vie sociale, chez les bonobos, on l'a vu tout à l'heure, est amplement dépendante de la sexualité. Mais pareil pour la vie sociale des chats ou la vie sociale
bien
d'autres
sûr,
espèces,
bien sûr.
Où la sexualité va intervenir. On voit d'ailleurs chez l'espèce humaine comment la sexualité et la répression sexuelle intervient aussi dans les relations sociales.
Et politique, absolument.
Et politique, tout à fait. Et en fait, la question, c'est que l'orgasme, ça sert strictement à rien. On n'a jamais pu réussir à prouver que l'orgasme avait un avantage. On a essayé vaguement de dire, bon, ça pouvait un peu nettoyer ceci, enlever cela. Mais à chaque fois, si vous voulez, les raisons sont d'une pauvreté absolue par rapport à l'incroyable effet que ça peut provoquer. Ça ne donne pas une meilleure progéniture, ça aide pas à une plus grosse progéniture. Par contre, ça aide à faire ça souvent. Et se faire ça souvent, ça va aider à avoir de la progéniture. C'est dans ce sens-là où les choses fonctionnent.
Ça donne envie, on est bien d'accord. Alors inversement, il y a un de nos auditeurs en RDC à Kinshasa, Christian Mounsibele, qui nous demande pourquoi certaines espèces n'ont pas besoin de sexe pour se reproduire.
Là aussi, c'est parce que l'histoire de la sexualité est longue. Il faut bien voir que dès le départ, l'invention du spermatozoïde et de l'ovule, ça commence bêtement. C'est simplement deux cellules équivalentes. L'une qui va très vite, qui va devenir petit à petit spermatozoïde. Mm-hmm. L'autre qui prend son temps et qui va devenir petit à petit l'ovule. Il va falloir que ça se sépare de l'organisme lui-même, qui au départ est primitivement hermaphrodite. Hein. On a tous commencé, le monde a commencé avec des accouplements homosexuels d'hermaphrodites. Et puis petit à petit, les espèces vont se séparer en deux sexes, mâles et femelles. Et là, ça va générer évidemment un conflit sexuel. La sexualité n'est pas faite pour la reproduction. La sexualité, c'est juste fait pour faire de la différence. On envoie des gènes, on se mélange les gènes les uns les autres. La reproduction, par contre, c'est facile. Chez beaucoup de vers, il suffit de se couper en petits morceaux, on pose le morceau là, et hop, il redevient un vers. Chez beaucoup d'espèces, on va retrouver ça chez les méduses, ou même chez les anémones de mer, on va retrouver simplement cette idée-là. Donc, la reproduction, c'est facile. La sexualité, c'est très compliqué. Pourquoi avoir associé les deux? Ouais. Eh bien, on n'en sait rien. C'est une énigme biologique absolument épouvantable que j'essaye justement de résoudre à travers toute une théorisation nouvelle qui permet de comprendre combien la diversité va finalement faire émerger encore plus de diversité. Mais évidemment, la sexualité, c'est la plus mauvaise manière de se reproduire. Il n'y en a pas une pire. Il faut énormément de temps, il faut trouver un partenaire, il faut que le partenaire soit plus ou moins consentant, il faut qu'il ait le bon âge, qu'il soit en état. Et en plus, il faut sacrifier un énervement des sens considérable, parce qu'il faut du temps avant d'être excité sexuellement. Bon, tout ça pour arriver finalement à quelque chose qu'on n'est même pas sûr de réussir. Donc, on voit que c'est épouvantable. En tout cas, c'est très mal fait pour diffuser ces gènes. Même si je me reproduis souvent, je diffuserai au mieux que la moitié de mes gènes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Donc, pourquoi est-ce que cette sexualité a fait ça? Parce qu'elle a un autre rôle. Elle a effectivement ce rôle principal de faire se différencier les choses. La sexualité produit de la différence et n'arrête pas d'en produire. À travers le fait de chercher un être différent, notre MHC différent, vous voyez, à travers le fait de se reproduire avec un tel ou un tel, ou même tout simplement de ne pas se reproduire et de rester homosexuel ou de rester dans d'autres éléments, pour expérimenter autre chose de la sexualité. Et voilà pourquoi, au lieu de passer leur temps à se reproduire, les espèces animales vont avoir des moments où ils adorent ça, des circonstances où ils adorent ça, des circonstances où ils n'essayent pas de se reproduire, mais ça ne les empêche pas de continuer à copuler. Hein.
C'est ça, hein, ça vous montrait plusieurs exemples de copulations qui n'ont rien à voir avec la reproduction.
Avec de la reproduction, tout à fait. On s'en parlait bien sûr des sodomies chez les lions et tout ça, qui peuvent exister comme chez l'humain. Tous ces éléments-là qui sont évidemment attisés par l'émotion que ça provoque, par tout le système de plaisir que ça provoque, en enclenchant et en chemintant tous les circuits corticaux pour passer par le système de la récompense, mais aussi évidemment en permettant de faire que les partenaires soient différents les uns des autres et produisent encore plus de différences.
Le sexe et l'innovation, ça c'est le titre du professeur Langanet, hein, André,
oui,
Langanet, qui a préfacé votre
tout
ouvrage « Histoire naturelle du plaisir amoureux » dont je rappelle que nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, autour de la question « Pourquoi refaire justement toute cette histoire naturelle du plaisir ?» Ben, juste pour le plaisir, précisément, c'est Thomas Fersen qu'on écoute avec ce morceau issu de l'album éponyme et que l'on peut entendre dans tous les sens du terme, un coup de queue de vache sur RFI.
La vie est seulement coq de ferme, c'est moi qui chante pour dire on ouvre, c'est moi qui chante pour dire on ferme. Et les poulettes, ben je les couvre. Une poule me paraissait pas mal, je la croisais dans le quartier. J'allais faire la danse nuptiale quand elle m'a vu sans monde entier. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis j'ai perdu toutes mes dents, j'ai pris un coup de queue de vache. J'étais monté sur le tracteur, je m'apprêtais à donner l'heure. Lorsque j'ai vu un parapluie, je me suis précipité sur lui. Ça parapluie, quel drôle de mec, je lui ai donné un coup de bec. Je ne sais pas ce qui m'a pris, autour de moi, tout le monde a ri. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai perdu un peu de mon panache. Et puis ça va pas bien là-dedans, j'ai pris un coup de queue de vache.
Pauvre coq qui a pris un coup de queue de vache, signé Thomas Fersen sur RFI. Autour de la question du plaisir, amoureux et sexuel, évidemment partagé bien plus et bien mieux qu'on ne le pensait par les autres animaux. Nous sommes en compagnie du professeur Thierry Laudet, le grand spécialiste des sexualités animales, qui vient de publier une histoire naturelle du plaisir amoureux. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs libres et curieux, histoire de regarder autrement, j'ai envie de dire un peu tout. En attendant, écoutez voir ce que les amours et la sexualité des libellules inspirent à un philosophe, Alain Cugnot, très inspiré précisément par toutes les figures amoureuses des libellules.
C'est un accouplement très très complexe parce que les pièces sexuelles du mâle sont situées à l'extrémité de l'abdomen, mais il dépose son sperme sous le deuxième segment, c'est-à-dire près du thorax. Ensuite, il a pris la femelle par une pince qui est au bout de son abdomen, et ils volent l'un derrière l'autre en tandem. La femelle replie son abdomen et vient le plaquer contre le deuxième segment, ce qui fait qu'à ce moment-là, le couple a une forme de cœur.
Le cœur des libellules.
Le cœur des libellules, c'est très beau, c'est très calme, ça n'a rien d'obscène. Il n'y a pas de ces mouvements spasmodiques tellement caractéristiques de la sexualité. C'est au contraire un étrange attelage, les libellules volant ainsi en chœur, pouvant se poser également.
Vous citez là le philosophe Spinoza dans la peau d'une libellule. J'ai vu et j'ai senti que j'étais éternel au moment de cet accouplement.
C'est vrai qu'il y a des moments où nous percevons que la vie manipule des enjeux ou trimballe des enjeux infiniment plus importants qu'on ne pourrait le croire. Et que ces moments-là, ce sont des moments à la fois inestimables et extrêmement exigeants. Je pense que la beauté des libellules et que l'immense chose qui se passe dans la sexualité sont de ces moments où le quotidien, le banal, laisse apparaître tout autre chose. Et ce tout autre chose, c'est ce que nous cherchons.
Voilà pourquoi vous passez votre vie, si j'ose dire, de philosophe à observer les libellules. Enfin,
voilà pourquoi, en effet.
Que peuvent apprendre des libellules à un philosophe? Mais c'est magnifique cet éclairage d'Alain Cugnot, Thierry Laudet. Et c'est vrai, quand on lit votre ouvrage et qu'on se rend compte jusqu'où nous entraîne cette réflexion sur le plaisir comme aiguillon de nos vies, et donc le plaisir sexuel évidemment au centre de tout ça, bah effectivement, ça peut faire rêver, là, vraiment.
C'est le résultat à la fois d'une très longue histoire qui s'est développée d'une manière tout à fait fantastique, particulière, merveilleuse, mais avec des éléments qui sont très contraints et qui sont en même temps pourvoyeurs de cette cascade de l'évolution qui fait que cette planète est encore vivante et qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça.
C'est ça aussi, hein, c'est vraiment la particularité de notre planète et de la vie sur Terre. Que vous apprennent ou vers quoi vous donne envie d'aller toutes ces enquêtes, tous ces travaux de recherche sur les sexualités animales et en l'occurrence là sur le plaisir partagé et le plaisir, je répète, moteur, étincelle, aiguillon de l'évolution.
Bien. Il faut continuer évidemment tous ces travaux de recherche à travers tout un ensemble d'autres éléments qui permettent d'ouvrir cette question. Car si évidemment on a besoin de poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a un orgasme, pourquoi il y a ceci ou cela, c'est bien évidemment parce qu'on n'est pas pour l'instant en état de comprendre à quoi ça peut servir. Et donc en se posant cette question, mais en renvoyant tout ça dans la thématique principale de la relation des êtres vivants les uns par rapport aux autres, à une thématique écologique, ce que j'appelle l'écologie évolutive, on peut faire évidemment, on peut beaucoup mieux comprendre les choses. Vous voyez, une question qui est récurrente actuellement en biologie, il y a sans arrêt des auteurs qui se disent, est-ce qu'il y a de la coopération, est-ce qu'il n'y a pas de la coopération, est-ce qu'il n'y a que de la sélection naturelle, est-ce qu'il n'y a pas que de la sélection naturelle. Tout ça, ce sont des débats qui datent de 1850 et qui se répètent sans arrêt. Il faut arrêter avec ces débats-là et commencer à comprendre que ce n'est pas la question. La vraie question, c'est que nous avons des relations les uns avec les autres. Que ces relations soient, entre guillemets, traduites comme coopératives, ça reste de l'anthropomorphisme. Qu'elles soient sélectives, ça reste de l'anthropomorphisme. Dans la réalité, on a des relations. On voit le résultat de ces interactions et c'est le résultat de ces interactions, ni bonnes ni mauvaises, au demeurant, ni méchantes ni gentilles. Le virus, il n'a aucune méchanceté contre nous, il le fait parce que c'est son écologie. Et cette durabilité d'écologie est la seule chose qui peut à la fois sauver la planète, mais elle le sauve dans l'expression de nos désirs et de nos plaisirs. Alors pourquoi s'en priver ?
Pourquoi s'en priver ? Donc nous sommes vraiment, hein, on n'est que de la relation, ou le vivant c'est de la relation, et le plaisir est là pour nous donner envie de plus de relations. Enfin, si je schématise, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Avec un paradoxe, c'est qu'on a beau être... on n'existe que par la relation, mais en même temps, on existe en tant qu'individu. Ça, c'est un paradoxe inouï, un paradoxe complexe sur lequel il faut évidemment travailler maintenant pour faire avancer encore les choses en biologie.
Merci infiniment, Thierry Laudet, d'être venu depuis Rennes, hein, entre Rennes et Angers, pour être en direct dans notre studio. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc Histoire naturelle du plaisir amoureux, édité comme tous les autres, hein, que je recommande également chez Odile Jacob. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir, juste pour le plaisir, évidemment. Mais le plaisir de savoir, le plaisir d'être en relation, le plaisir de nous écouter. À très bientôt, Thierry Laudet. Autour de la question, c'est presque fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à réécouter, à vous abonner bien sûr à notre podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes et également sur l'application RFI Pure Radio. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour notre première table ronde de rentrée avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui viendront, vous le savez, avec de nombreux magazines à vous faire gagner autour de la question « Comment la science infuse et va se diffuser cette année ?» À la réalisation, Hugo Violas, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Écoutez-moi.